Ce dont je vais vous parler, ce sont des choses qui sont extrêmement bien connues en Angleterre, en Grande-Bretagne. Alors pour vous, ce sera peut-être neuf et c'est tant mieux, et ce sera intéressant, ludique, que sais-je encore. En revanche, pour les Britanniques, la question a été amplement traitée. C'est un gros travail qui fascine, qui a fasciné les historiens, qui a fasciné les géographes britanniques, en particulier les géographes d'Oxford et de Cambridge. Ça a fasciné aussi, et ça fascine toujours, les médias. Vous avez très, très régulièrement des ciné-documentaires, des petits films, des feuilletons qui prennent pour cadre le grand incendie de Londres. On a davantage comment dire, dans le monde médiatique d'allusions ou de références presque au grand feu qu'à la peste, hein, qui précède de quelques mois ma catastrophe. En fait, il faut l'imaginer, hein, ils vivent coup sur coup deux catastrophes, avec une rémission. En fait, il n'y a pas de rémission, parce qu'au moment où le feu commence, on a encore de la peste dans les rues de Londres, mais disons que le gros est passé dans le courant du mois de mars-mai 1666, approximativement. Donc, je vais plutôt utiliser ma catastrophe, mais je pense que c'est la finalité même du séminaire, comme vecteur, comme interface, qui nous permettra d'aborder, mais alors, des quantités de sujets directement connectés au monde de la ville. Alors, la catastrophe, bien entendu, mais également les rapports de pouvoir. Je ne l'avais pas soupçonné, parce qu'en réalité, quand il m'avait parlé, Vincent, de cette communication donc, pour aujourd'hui, je me suis dit, c'est une catastrophe pour le coup. J'ai pas grand-chose, j'ai pas travaillé spécialement sur le grand incendie de Londres pendant que j'étais à Cambridge. Donc j'ai fait un raid aux archives, au musée de Londres, etc. Puis j'ai photographié, j'ai pris tout ce qui me tombait. Donc j'ai accumulé de la matière première. Et puis il y a quelques jours, j'ai essayé de trier la matière première. Et il y en avait des stères, hein, comme on dit en montagne. Il y en avait beaucoup. Et entre autres, il y a un aspect qui est important, c'est l'aspect politique que je n'avais absolument pas soupçonné, en tout cas pas à ce point. Donc, je vais parler de la catastrophe, de ses conséquences, bien entendu, économiques, morales, territoriales, au niveau du territoire de la ville de Londres. Je ne parlerai pas de la reconstruction de Londres, j'y ferai allusion à la fin. Elle est généralement bien connue, et puis après tout, on est sorti de la catastrophe. Donc je lancerai quelques pistes seulement qui éventuellement pourront être prises dans le cadre du débat. Donc je vous propose, hein, d'emblée de sauter dans le brasier. Le 10 septembre, l'incendie se termine, alors selon les sources, les 4 ou 5 septembre à peu près, 5 jours après la fin du désastre, vous avez une commande royale qui s'adresse en plus à un étranger, un tchèque, qui demande donc la levée d'un plan cartographiant très très précisément. Il est effectivement très très précis. Je l'ai recalé avec une carte actuelle de Londres et les points cotés, etc., correspondent parfaitement. C'est un plan détaillé donc qui montre la zone incendiée de Londres. C'est-à-dire que le roi a absolument besoin d'avoir une approche, une appréhension de l'étendue du désastre, mais sur le plan spatial. On a peu de social, cela dit, le social, il apparaît dans le nom des rues, puisqu'à l'époque, chaque rue est affectée à un certain type d'activité, correspond à un certain type de population, etc. Donc, à l'origine, hein, fut Pudding Lane. Pudding Lane est une rue très très étroite, à proximité de la Tamise, et qui, par définition, n'est absolument pas la zone la plus à risque, la plus menacée par un risque d'incendie. En tout cas, on a en théorie les moyens d'intervenir très vite pour circonscrire un départ de feu. Pour mémoire, le feu à Londres, comme dans la plupart des grandes villes, c'est quelque chose, des phénomènes récurrents. Hein, 1666 n'est en aucun cas une rupture historique dans l'histoire de la cité de Londres. Toujours est-il que ça démarre à Pudding Lane. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un boulanger. Je vous présenterai après des documents beaucoup plus précis avec une approche plus sociologique. C'est un boulanger qui va se coucher. C'est la France qui, enfin, c'est pas la France, c'est l'Angleterre qui se couche tard. Elle se couche très tard, vers les minuit, 1 h du matin, selon les sources. Si on ne demande pas de sources, elles sont présentées ultérieurement à dessein. Notre boulanger, donc, oublie apparemment de refermer son four. Des braises sautent et tombent sur des sacs de pain en toile de jute, probablement. Et immédiatement, ça commence à s'embraser autour du four et à l'intérieur de la maison. Le boulanger se réveille, sauf sa famille, sauf une servante qui n'a pas le temps de passer par la fenêtre et qui sera, j'insiste, une des rares victimes de cet incendie absolument désastreux. On a eu très très peu de décès. C'est absolument pas la version de l'incendie de Rome sous Néron En aucun cas, on pourra s'interroger d'ailleurs sur la faiblesse de ce taux de perte, c'est vraiment une question d'étonnement, les historiens anglais ne répondent pas vraiment, ou en tout cas de manière très évasive. Je les comprends, hein, cela dit. Donc, on démarre à Pudding Lane, on est donc dans dimanche matin, sur le coup des 1h du matin à peu près, et très rapidement, l'incendie se diffuse à l'ensemble des quartiers adjacents. Cette diffusion est incompréhensible, tout simplement parce que, à cette date, Londres a déjà élaboré des plans de prévention des risques d'incendie. Sous quelle forme? Entre autres, la majeure partie de la ville est approvisionnée en eau sous forme de canalisation en bois d'orme. Et donc, à tout moment, on l'a déjà expérimenté, vous avez des unités de pompiers, les fameux firemen, en fait, ce sont des miliciens de la ville, une milice municipale, mais qui a visiblement un entraînement spécial, spécialement consacré à la maîtrise des feux. Et ces gens donc arrivent sur les canalisations, doivent avoir des tarières de charpentiers ou de sabotiers, font un trou dans la canalisation et se connectent dessus directement. Or, le système ne fonctionne absolument pas. Deuxième stratégie élaborée depuis déjà plusieurs décennies, eh bien, on circonscrit le feu en faisant quoi ? Ces pompiers sont munis d'un outil extrêmement efficace, des hooks, des crochets, et ils abattent les maisons. C'est de la maison médiévale, maison à colombage, torchis. Une partie des toitures de Londres à cette époque sont encore couvertes de chaume. Il faut imaginer, on a des zones marécageuses très importantes dans l'estuaire de la Tamise, d'ailleurs qui resteront des zones paludéennes quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elles seront maîtrisées très très tardivement. J'ai eu l'occasion de travailler avec des médecins universitaires et ils considéraient que c'était vraiment le foyer historique du risque de paludisme en Grande-Bretagne. Donc les stratégies, les plans de défense ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Eh bien, du fait d'une première faillite politique, celle du Lord Maire de Londres. Il est appelé très rapidement, puisque ça commence à se diffuser, et les gens, les pompiers arrivés sur place, entendez par pompiers plutôt miliciens municipaux, vous avez un exemple donc de leurs pompes, arrivent avec leurs engins, il y a déjà un système de pompes. Le problème, contrairement à cette image, très peu de pompes sont montées sur des châssis à roues, munis de roues. Donc on a du mal à les mouvoir dans la rue, sachant que vous avez ici une idée de la largeur de ces rues. Elles sont très très étroites, avec des maisons à encorbellement, difficiles de se mouvoir. Donc là aussi, c'est une complication supplémentaire. Le maire arrive sur place. Alors pour mémoire, il s'appelle Bloodworth, le bien nommé. Il va faire couler du sang, ou en tout cas beaucoup de sueur, faute de sang. C'est pas si mal. Il a été nommé par le roi. On est dans la phase de restauration monarchique. Il faut aussi le prendre en compte dans le contexte global. C'est un homme du roi. Qui dit homme du roi dit aussi, dans ce cas précis, incompétence. Il est complètement paralysé, tétanisé devant le départ de feu dans le quartier de Pudding Lane et les quartiers adjacents. Et contrairement à l'usage, il refuse d'abattre les maisons. Les pompiers le supplient, ils disent « mais ça va être pratique, on va créer un système de pare-feu autour des maisons du boulanger et des voisins, etc. » Et on aura circonscrit très facilement. L'individu, alors je le décris comme si je le connaissais, tout simplement parce qu'on a des livres de raison, des journaux dont je parlerai ensuite, qui vraiment décrivent et qui sont le fait de gens très haut placés, en particulier celui que vous connaissez probablement déjà, c'est Pepy, Samuel Pepy. Ça se prononce Pepys, qui est un très très haut fonctionnaire de l'amirauté qui va gérer une bonne partie de la crise pour le roi. Et donc le maire est tétanisé, refuse d'abattre, et du coup le feu gagne. Donc là, nous sommes le lundi 3 septembre, 1h du matin. Il continue à progresser le 4 septembre, et le mardi 4 septembre, il n'est absolument plus maîtrisable. Il court. Il est avivé par la flèche jaune, à savoir un vent extrêmement puissant, orienté plein est, qui active, et au bout d'un moment, le feu crée son propre régime de turbulence. Alors, je ne suis pas climatologue, mais un climatologue vous l'expliquerait très très bien. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, on ne le maîtrise plus, il s'alimente tout seul. Sachant quand même que ce vent d'est va avoir un impact, parce qu'au même moment, vous avez un individu particulièrement connu qui vit à Oxford. Ce n'est autre que le philosophe John Locke. Et il décrit Il fait des relevés d'observation, état du ciel et relevés météorologiques. Et tout d'un coup, le 2 septembre, il dit on a observé un phénomène absolument exceptionnel, un ciel absolument totalement rouge, profond, avec du brouillard, quelque chose d'incompréhensible. Et puis après, il rajoute on a appris que Londres avait brûlé, etc. Donc vous voyez un petit peu la distance couverte et l'effet visuel qu'a pu avoir cet incendie de Londres, parce qu'Oxford est quand même à une distance certaine, Oxford de Londres. Donc à partir de là, on ne maîtrise plus rien, on tente d'élaborer une nouvelle tactique, et la nuit du 4 septembre, le vent faiblit enfin, et l'on commence à espérer pouvoir contenir le feu. De quelle manière? Eh bien, plusieurs moyens en réalité, que Saint-Paul a brûlé. Alors il faut imaginer, à ce moment-là, la population ne commence à paniquer que dans la nuit du lundi, que le lundi dans la nuit, sur le coup des 1h ou 2h du matin. En tout cas, c'est ce que décrivent mes témoins tels que Pépi ou Evelyn, qui est un autre observateur de cette catastrophe. Alors, la population s'engouffre dans les rues, s'échappe ou tente de s'échapper par voie terrestre ou bien encore par la rivière. Donc vous imaginez, on chasse littéralement les charrettes, les chariots, les bateaux, tout ce qui peut flotter ou rouler. Et dans le même temps, les autorités décident finalement de suppléer l'incompétence totale du maire. Et le pouvoir royal entre directement en ligne de compte en décidant de démolir lui-même avec ses propres forces certains quartiers en totalité, si possible dans le sens du feu, l'objectif étant de créer, comme pour des sapeurs forestiers par exemple quand il y a des incendies de forêt, des zones de glacis contre lesquelles viendront mourir les flammes. C'est exactement le principe qui est appliqué ici à Londres. Alors comment s'y prend-on? Entre autres, plein ouest, le feu va s'atténuer en rencontrant une nouvelle forme de bâti, à savoir la partie la plus récente, la plus moderne, en direction de Whitehall. Whitehall étant par extension le centre du pouvoir. C'est un bâtiment, mais aujourd'hui, mais depuis longtemps déjà, pour les Britanniques, Whitehall, c'est toute la concentration des différents ministères dans le quartier. Donc les flammes rencontrent un matériau, qui ne brûle pas, à savoir des bâtiments en briques. Donc le feu commence à se stabiliser sur le front ouest. Ailleurs, sur ordre du roi, Pépi essaie de trouver d'autres solutions. Il ordonne d'abattre, avec les fameux crochets, de nouvelles maisons. Mais alors cette fois-ci, à très très grande échelle, c'est le cas de le dire, l'objectif étant de créer des surfaces très très étendues pour neutraliser, immobiliser, les pompiers diraient aujourd'hui, fixer le feu. Et c'est là que Pépi a du génie. Pépi, je vous le répète, est vraiment le principal responsable de l'amirauté. C'est un très haut fonctionnaire. Et il se dit, mais j'ai des hommes à proximité, des marins, qui savent manipuler la poudre. Et il a l'idée géniale. Alors vous, ça va vous paraître extrêmement terrifiant, peut-être. Il a l'idée de faire exploser les maisons pour aller plus vite. Et il va dynamiter, il va charger les canonniers de la Royal Navy d'intervenir, en particulier sur le front le plus menaçant, plein est, au niveau de la Tour de Londres, The Tower. En fait, c'est là qu'on stocke à cette époque les réserves de poudre de la Royal Navy. Donc les marins vont créer ce fameux glacis en faisant exploser tout le tissu urbain à proximité de la tour et ainsi bloquer l'incendie. Dans le même temps, l'armée, elle aussi, est mise à contribution à l'intérieur de la ville. Les fameux firemen, là, ces pseudo-pompiers avant la lettre, ne sont pas suffisamment nombreux. On va donc rafler les fuyards, les hommes, et on va mobiliser les régiments de la garde. Et celui qui va se distinguer quand vous assistez aux commémorations, parce qu'il y a des commémorations, les Anglais célèbrent beaucoup leurs catastrophes. À titre de spécialiste du risque, je considère pour ma part que c'est une très bonne chose, c'est une forme de préparation des populations. On a commémoré l'an dernier l'anniversaire de la submersion de 1953, mais vraiment en grande pompe un petit peu partout dans le pays. Je vous donnerai quelques illustrations à partir de sites web, de la BBC, des pompiers, et ainsi de suite. Et là, ceux qui se distinguent, c'est intéressant, sont les Coldstream gardes. Vous devez les connaître, c'est ceux qui ont le bonnet en poil d'ourson là qu'on voit parader pour l'anniversaire de la reine. En fait, ces individus, c'est intéressant sur le plan politique, dans la mesure où ils symbolisent la New Model Army, c'est-à-dire le nouveau modèle militaire élaboré par, non pas un monarchiste, mais par Cromwell en personne. Ils sont considérés comme peu fiables, pas très sûrs, étant composés encore à cette époque majoritairement de puritains. Or, ces individus vont jeter dans le brasier, au sens propre comme au sens figuré, et remplir leur office, être relativement efficace, maintenir l'ordre, mais aussi réaliser des opérations de police, des opérations de répression, sur lesquelles on reviendra ultérieurement, si vous voulez bien, parce qu'il y a un aspect aussi policier très très important, et je ne le savais pas en te faisant la proposition du grand feu de Londres, mais très important, vraiment. Donc, voilà où nous en sommes, le feu est maîtrisé, les populations tentent de s'échapper. Alors, il y a un hiatus dans les sources. On dit que les gens s'engouffrent dans les rues, il y a des mouvements de panique. Alors, il faut imaginer. L'important, plus encore que de se sauver, c'est de sauver sa fortune, ses biens. Et tous les témoignages décrivent les gens. Ils creusent partout. Ils font des trous dans les jardins et ils enterrent leur fortune, leurs papiers, comptables, etc. Pépise, là, le haut fonctionnaire, il embarque les papiers de l'amirauté et il les enterre dans son jardin. Probablement, il comprend qu'il ne sera pas menacé. Donc, il ressort les papiers. Il y en a d'autres qui considèrent que un lieu saint, ce sera forcément protégé par Dieu. Et alors, ils vont stocker une bonne partie des biens londoniens dans la cathédrale Saint-Paul. En théorie, c'est une excellente idée. La cathédrale est en pierre. Donc, c'est un raisonnement qui est très, très juste. Malheureusement, on a des boucles historiques quand même assez déroutantes dans cette histoire du grand feu de Londres. Malheureusement, la cathédrale Saint-Paul est à cette époque en travaux. Et ce n'est d'autre que le futur reconstruire de Londres, l'architecte Christopher Wren, qui est chargé de la restauration de la cathédrale. Et notre homme a une idée absolument géniale, forcément, pour retaper le bâtiment. Il a monté des échafaudages à peu près partout. Donc en fait, les échafaudages permettent au feu de communiquer avec la toiture. Les canalisations en plomb, etc., les chaînaux, tout le système de chaînage va fondre, va retomber. Et apparemment, d'après les descriptions, très rapidement, en moins d'une heure, la cathédrale flambe avec tous les biens accumulés à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs désastres, plusieurs catastrophes dans cette affaire-là. Il n'y a pas trop de catastrophes humaines, sinon le traumatisme psychologique, c'est entendu, mais aussi des pertes très très importantes en termes de biens. Et imaginez qu'ensuite le feu saute jusqu'au Royal Exchange. Là, c'est le désastre absolu. La City a déjà une vocation financière, commerciale très très prononcée. Et cette fois-ci, c'est le cœur stratégique du système commercial britannique qui est en pleine phase d'ascension, notamment sur le plan militaire, mais l'armée et la Royal Navy n'étant finalement que l'outil permettant de réaliser la domination commerciale et économique. Et le Royal Exchange brûle aussi. Donc là, c'est toute l'économie du royaume d'Angleterre qui est ébranlée à ce moment-là, c'est-à-dire dans la nuit du mardi 4 septembre. Au terme donc de ce brasier, absolument effarant, inimaginable, le bilan est, je dirais, mitigé. 13 000 maisons, je vous livre quelques chiffres, ce que j'ai pu relever à la fois dans les rapports officiels, dans les livres de raison, dans les journaux intimes. 13 000 maisons brûlées, j'ai vérifié avec mes collègues d'Oxford et de Cambridge, il y a des petites différences, mais elles sont vraiment infimes. On estime qu'environ 151 hectares ont été incendiés. En fait, c'est le Londres qui est à l'intérieur du mur romain. Au passage, le pont de Londres est détruit. Pourquoi est-il détruit? Tout simplement parce que, comme la plupart des ponts parisiens à cette époque, ou encore comme le Ponte Vecchio aujourd'hui à Florence, ces ponts sont habités, on le voit parfaitement si vous fixez bien l'image, la partie droite de l'image, et ça s'est communiqué, et au bout d'un moment, ça a failli, toucher l'autre rive, Southmark, l'autre rive donc de la Tamise. Ça ne s'est pas produit parce qu'en 1632, il y avait déjà eu un feu, et à l'époque, on avait créé un glacis sur le pont. Et du coup, le feu s'est bloqué à peu près, s'est arrêté aux deux tiers de la longueur du pont et ne s'est pas communiqué à l'autre rive de la Tamise, le faubourg londonien. La cathédrale Saint-Paul est détruite, 84 églises, c'est pas rien. On est dans une Angleterre très puritaine et en même temps une Angleterre qui est en train d'amorcer un retour à l'anglicanisme, à un protestantisme davantage porté sur le catholicisme, même si dans les faits la rupture est totale avec le catholicisme, et je vais vous fournir pléthore d'exemples terribles concernant le traitement de la communauté catholique. Plus important et plus dramatique, c'est le nombre de sans-domicile. Plus de 100 000 environ, d'une source à l'autre. C'est à peu près la fourchette avancée par la plupart des spécialistes. Et un coût qui a été estimé par qui? Je vous le donne en mille, rappelez-vous de l'exposé de Thomas Leroux, ben les assureurs. Les assureurs jouent un grand rôle. Et il faut savoir que les réassureurs actuels de Londres s'intéressent au cas du grand feu. Même s'ils considèrent que ce risque est infime aujourd'hui, n'empêche qu'ils ont réalisé des estimations de coûts, ils ont surimposé, etc. Et on estime donc que la catastrophe de 1666 aurait coûté, alors moi je l'ai converti après en euros, environ 12 milliards d'euros. C'est colossal, hein? C'est colossal, absolument. À titre de comparaison, de mémoire, quand on a recalculé le coût de Xynthia avec des réassureurs français, on en a. C'est vraiment une catastrophe. Hein? On a cassé notre petit cochon pour financer la catastrophe de Xynthia, environ 5 milliards. Là, nous sommes à 12 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas ce que valent ces chiffres financiers. Ça donne une idée. C'était grave. Hein. En revanche, là c'est véritablement ce qui déroute l'historien, c'est finalement le coût humain qui est extrêmement faible. Alors selon les sources, moi j'ai mis 6 décès officiels, on peut monter avec Stephen Porter, lui parle d'une dizaine, considère qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été répertoriés, etc. En fait, je peux vous lâcher ça, il y a sans doute eu plus de morts du fait des... Alors, ce ne sont pas les pogroms, ce n'est pas orienté contre les Juifs, mais contre les Hollandais et les Français, ou en tout cas les catholiques. Il y en a sans doute eu des dizaines à l'époque. Mais ils ne sont pas répertoriés, visiblement, les autorités ne se sont pas étendues sur la chose. À titre indicatif, quand même, la fameuse grande, la grande peste de 1665 a fait 80 000 morts, c'est-à-dire environ un sixième de la population totale de Londres. Donc, il faut garder à l'esprit deux choses concernant cette catastrophe du grand feu de Londres. Certes, un impact économique important, un impact urbain lui aussi très très conséquent. En revanche, je dirais que c'est un quasi non-événement en termes démographiques. Je n'ai pas dit en termes socio-économiques, surtout concernant la société, parce qu'on va avoir un mouvement de population très important. Sur le plan territorial, oui, c'est un désastre absolu. Donc je vous propose cette fois-ci d'aborder la question d'une manière un petit peu différente, sous un angle davantage social. Je dirais qu'il y aura, j'y mettrai davantage de chair humaine. Cela dit, je n'ai pratiquement parlé que de chair humaine dans mes rues, autour de la Tower de Londres. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, les témoins du temps. Ils sont nombreux. Moi, j'en ai utilisé deux parce qu'il fallait faire des choix, sinon... c'était un livre qu'on écrivait sur le Grand Londres. J'ai utilisé les deux principaux témoins systématiquement utilisés par les historiens britanniques. Le premier d'entre eux, c'est bien entendu le fameux Samuel Pepys, il prononce Pepys, rarement Pepys. Notre homme, donc, est le secrétaire de l'amirauté. Il est intéressant, il est l'exemple même de la mobilité sociale au sein de la société anglaise du XVIIe siècle. Il est de basse extraction, c'est un fils de petit négociant, mais qui rentre à l'université, pas n'importe laquelle. Il intègre Cambridge, et en particulier le collège de Magdalene. C'est un des plus prestigieux collèges de Cambridge aujourd'hui encore, qui, en ayant accueilli notre fameux Samuel Pepys, a hérité, bien entendu, de sa bibliothèque. Mais alors, il veille sur la bibliothèque de Pepys comme sur un trésor de guerre. C'est assez perturbant, il faut montrer patte blanche, c'est très très compliqué, très difficile de pouvoir accéder à l'original. On me l'a montré 2 minutes et on m'a repris le bouquin et j'ai dû retravailler avec les sources imprimées. Tout simplement parce qu'apparemment, ils en font des clichés, etc. Ils les vendent, c'est une affaire qui semble assez juteuse sur le plan financier. Pepys, donc, est quelqu'un de très cultivé, instruit. Très rapidement, il entre au service du Earl du Cambridgeshire, le comté. Ensuite, il rentre dans le réseau du duc d'York, qui est le frère du roi d'Angleterre. Il est plutôt monarchiste, ce qui est très inhabituel pour un Cambridgien. Les Cambridgiens sont plutôt des Cromwelliens, et pour cause, Cromwell est un élève de Cambridge. Il a été alderman, conseiller municipal de la cité. Vous avez encore un collège qui est le collège de Sidwick College, qui a reçu et qui a éduqué, comme l'on dit, Cromwell, et qui aujourd'hui encore trie ses étudiants, c'est-à-dire que majoritairement, enfin en tout cas, vous n'aurez pas un catholique ou en tout cas un non-puritain qui rentrera dans ce type de collège. C'est-à-dire que le collège accueille ce que les Britanniques appellent encore aujourd'hui, mais déjà à cette époque, Pépys utilise cette expression, Evelyn également, la notion de unconformiste, de non-conformiste. Ça désigne en vrac les Quakers, les méthodistes, enfin tous ces groupes les plus puritains. Donc voilà pour Pépys. Son texte est pratiquement illisible, c'est une paléographie qui est extrêmement ardue, qui ressemble par moments à un codage morse, c'est assez curieux. Deuxième témoignage, beaucoup plus accessible parce que l'original est introuvable. Il a été imprimé comme beaucoup de livres de raison français. La première version doit dater des années de la fin du 19e siècle. C'est John Evelyn, c'est un écrivain, paysagiste, un personnage là aussi qu'on peut qualifier comme Pépys de... Je reprends une expression le roi Ladurie, mais un personnage total. Il est écrivain, il est paysagiste, hygiéniste, mémorialiste. Enfin, il a vraiment tout pour plaire. Et c'est un très, très, très grand ami de Pépys. Et d'ailleurs, dans son journal, même pendant l'incendie, ils échangent, ils envoient de la correspondance. Cela dit, Evelyn arrive pas tout à fait après la guerre, mais plutôt vers la fin de l'incendie, alors que Pépys, lui, est vraiment sur la ligne de feu, c'est le cas de le dire, de manière permanente, dans le cadre de ses fonctions, bien évidemment. C'est aussi un très, très grand sylviculteur. Il est l'auteur d'un traité en histoire forestière qui est assez connu. Et en fait, la connexion avec Pépys, j'ai cherché, mes collègues étaient un petit peu perdus, c'est la forêt, c'est tous ces traités de sylviculture. Pépys est haut fonctionnaire de l'amirauté, et comme vous le savez tous, les navires à cette époque naissent en forêt. Donc Evelyn est régulièrement appelé par l'amirauté comme expert finalement en sylviculture, l'utilisation du meilleur pour les usages du bois, les périmètres d'approvisionnement, sachant qu'au XVIIe siècle, il n'y a plus beaucoup de forêts en Angleterre, en Angleterre centrale tout du moins. Ce qui est intéressant aussi chez Evelyn, donc lui décrit, il vit en dehors de Londres, il s'y rend, alors comme Pépys, il se déplace à Londres en bateau. Ils utilisent la Tamise et tout le réseau hydrographique secondaire. Donc, ils ont accès pratiquement à toutes les parties de la ville. C'est très, très intéressant. Il dit sans cesse dans son ouvrage, dans son journal, I took a boat, j'ai pris un bateau. Il prend un bateau plusieurs fois, il en prend un toutes les heures, toutes les deux heures, etc. Mais ça lui permet d'avoir une vue imprenable sur la progression du feu. Donc, c'est vraiment une approche d'expertise opérationnelle. Un autre paradoxe aussi, Evelyn, après le désastre, proposera un plan pour la reconstruction de Londres et sera évincé par Rennes. Donc voilà pour les deux personnages essentiels. Il y a d'autres témoignages, notamment le témoignage d'un élève d'un collège de l'Université de Londres, qui est pas mal non plus, que je n'ai pas utilisé parce qu'au bout d'un moment, c'était redondant et ça n'apportait quand même plus grand-chose de plus. Ce que je vous propose ici, c'est d'aborder un petit peu de manière comparative les comportements des individus dans une cité face à la catastrophe. Dans certains cas, ces témoignages concernent la personne même de Pépys ou alors la population décrite par ces témoins, Pépys ou Evelyn. Alors, première partie, le réveil. C'est sa domesticité qui vient le chercher, qui lui dit « Attention, il y a un feu, il faut que vous regardiez ». Il se précipite à la fenêtre, il regarde, il explique, il dit « Oui, j'ai vu des flammes ». Effectivement, c'est dans le secteur de Pudding Lane, mais j'ai considéré qu'ils allaient circonscrire le feu aisément. Je pense qu'il est de bonne foi. Il considère que la stratégie élaborée déjà depuis plusieurs décennies doit fonctionner et qu'on va contenir le danger. Il va se recoucher. Il se réveille un petit peu plus tard. Il monte dans la tour de Londres et là, il comprend le problème. Et il se dit, mais bonté divine, personne n'est intervenu. Les autorités municipales n'ont rien fait. Le feu s'est diffusé à une vitesse incroyable. Si on avait appliqué la stratégie, la tactique du glacis, on aurait dû limiter l'emprise territoriale de ce feu aisément. Et c'est là qu'il va entrer en ligne de compte. Il prend le bateau, grimpe sur son bateau, il emmène même sa femme, et il fait un état des lieux. Il repère les zones sensibles, les zones les plus à risque, etc., et il court à Whitehall. Donc il a ses entrées, hein, il est dans la, comment dire, l'intimité quasiment du duc d'York, donc le frère de Charles II, et il fait un rapport très très circonstancié devant les conseillers du roi, le duc d'York, etc. Le roi, donc à ce moment-là, intervient, prend une décision et dit « il faut détruire les maisons, le maire est en dessous de tout ». C'est lui qui l'a nommé, hein, je vous le rappelle. Il est en dessous de tout, donc on intervient, on court-circuite en quelque sorte tous les réseaux des pouvoirs locaux. Donc vous, Pépi, vous êtes chargé de faire abattre. Et pour y parvenir, le duc d'York propose immédiatement ses unités, en particulier les Coldstream Guards, qui sont des soldats d'infanterie, et les fameux, les Reds, que vous connaissez peut-être, les fameux gardes qu'on voit à cheval, etc., les Life Guards. Donc les Life Guards vont surtout être utilisés dans le cadre d'une mission de police, encadrement, éviter les mouvements de foule, l'accumulation des gens au niveau des portes, rendre fluide la circulation, et à un moment donné, il manque tellement de bras, ça c'est pour l'anecdote, les Anglais s'en vendent pas trop, mais on le voit dans le journal de raison de Pépi, ils ont peur de manquer de bras, ils en manquent, ils décident de fermer les portes du mur romain. Comme ça, ils gardent les bras à l'intérieur et ils les recrutent d'office. Mais ils vont avoir une politique assez à droite. En fait, ils vont les nourrir et les payer. Donc, de fait, une partie travaillera effectivement contre le feu de manière relativement volontaire dans un second temps. Donc, vous avez ces interventions, cette évacuation du pouvoir municipal qui s'effondre à la faveur du feu, comme les maisons de Londres, et puis dans le même temps, des mouvements plus irrationnels. Alors, il y a Pépi là qui décrit, il parle d'un pauvre peuple, ces peuples sont en train de courir sur les bateaux, ils se précipitent sur les bateaux, ils grimpent sur les quais, ils jettent à l'eau, donc on a des mouvements de panique, il les décrit formidablement bien. Et en même temps, la cohue dans les rues, c'est le 1, 2, 3, 4e paragraphe, et du coup on voit que des gens qui sont sur des chevaux ou alors sur des charrettes, et ces charrettes vont se vendre ou se louer à prix d'or. Vous verrez, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, de manière très précise, avec une inversion des hiérarchies sociales assez intéressante à cette occasion. Et puis, un petit peu partout, donc la Tamise envahie par des bateaux de toutes sortes. Ça devait être, une annonce en quelque sorte de l'expédition vers Dunkerque pour sauver le corps des expéditionnaires. On a récupéré, réquisitionné tout ce qui flottait et on les a concentrés à proximité de la city pour venir en aide aux populations locales. Et enfin, vous êtes là cette fois-ci le lundi 3 septembre, le feu fait rage et ainsi de suite, sur le coup des 4 heures du matin. Cette fois-ci, les populations sont complètement paniquées, ils bouchent complètement les rues. Il n'y a plus moyen de sortir de Londres. Et c'est là donc qu'intervient, mais je l'ai déjà indiqué, le fameux duc d'York. Mardi, que se passe-t-il ? Eh bien, les gens commencent à protéger leurs biens, je vous l'ai raconté, ils creusent. Et ils cachent leurs papiers, leurs trésors. Alors là, c'est assez amusant. Ils protègent son parmesan. C'est Pépi, ça, qui protège son parmesan. Il va le ressortir après, quand il va voir que le parmesan n'est pas menacé par les flammes. Oh, c'est un clin d'œil intéressant en termes de relations commerciales aussi. Hein. Les Italiens utilisent des produits italiens. Les Anglais utilisent des produits italiens sur le marché de Londres depuis très, très longtemps. Ce sont des gros mangeurs de brocolis. Et on voit apparaître le brocoli. Ouais, j'ai trouvé ça dans mes archives à Covent Garden. On voit apparaître le brocoli pratiquement autour des années 1620-1630, et après, on a systématiquement du brocoli sur le marché de Londres. Donc, ils ont dû l'acclimater, le cultiver. Oui, c'est pour l'anecdote campagnarde. Enfin, le 5 septembre, cette fois-ci, vous avez donc à nouveau des renforts qui sont envoyés, les fameux hommes de King's Yard sont plus ou moins des soldats ou des ouvriers de la marine qui viennent de la fameuse tour de Londres. Parallèlement, le pouvoir continue à agir. Le duc d'York obtient la permission de détruire davantage de maisons. Ensuite, la décision qui est vraiment... qui est un tournant dans la lutte contre cet incendie, c'est la décision consistant à faire exploser ces maisons à l'aide de la poudre. Et puis dans le même temps, des actions de solidarité qui sont réalisées par le pouvoir en place. Entre autres, ces hauts fonctionnaires accueillent les pompiers, les volontaires, les soldats dans les cabinets, dans les offices, dans les bureaux ministériels et les nourrissent. C'est important parce que cette idée de la solidarité, de la résilience du peuple londonien sous 1666, en 1666, va être réutilisée, vous vous en doutez quand, en 40, pendant le Blitz. on va se remémorer, sachant qu'il existe à Londres un monument qui commémore l'incendie avec des phrases célèbres sur le courage, la bravoure et la résistance du peuple londonien. Donc ce sera réemployé à vocation de, comme outil de propagande dans les années 1940. Par la suite, le mercredi, le feu quasiment éteint, le roi, par une proclamation officielle, ordonne la distribution de vivres pour les sinistrés, de grosses quantités de pain qui seront apportées quotidiennement sur les marchés. Pas de chance, on corrige rapidement le tir, on se rend compte que les marchés ont brûlé, donc c'est un très mauvais calcul, on ne peut pas distribuer. Donc on va créer de nouvelles places à partir desquelles on pourra enfin redistribuer ces vivres pour les populations locales. Donc on a bien une prise en charge du risque pendant et dans les premières heures après le désastre, au moment même où les braises sont encore fumantes. Posons-nous cette fois-ci une autre question, mais qui a toujours trait à la dimension sociale, cette fameuse chair humaine. C'est la faute à qui, cet incendie? C'est une question quasi métaphysique pour les Anglais. Je pense qu'elle n'est pas totalement résolue, même si aujourd'hui, ils ont du mal à se prononcer. Le premier, c'est ce que j'ai appelé, moi, le fantasme de la cinquième colonne. En effet, à partir du moment où le feu se diffuse, dépasse le quartier de Pudding Lane et se diffuse un petit peu partout dans Londres, très très rapidement, on dénonce là la main de l'étranger. Qui est l'étranger? Rappelez-vous du contexte, l'étranger le plus dangereux à cette époque, c'est le Hollandais et le Français. L'Angleterre est en guerre contre les Hollandais depuis 1665. Ils viennent de remporter une très belle victoire contre les Hollandais, mais n'empêche, on les soupçonne de vouloir se venger de manière vicieuse, et les Français ont rejoint les Hollandais quelques mois plus tôt. Donc on pense à une coalition d'autant plus aisée qu'à l'intérieur de Londres, on a des communautés et hollandaises et françaises. On oublie simplement de préciser que les Français de Londres, a priori, sont des protestants qui eux-mêmes ont été persécutés par le bon roi de France. Ils passeront outre, ils n'en tiendront absolument pas compte, et ils les traiteront, ils les accuseront d'être des papistes. On le verra un petit peu plus tard. Donc immédiatement, les autorités diligentent des enquêtes, c'est-à-dire que les soldats du York, en même temps qu'ils maintiennent l'ordre, ils commencent à ratisser les rues, à repérer les artisans français et hollandais et à les rafler, à les interroger visiblement plutôt virilement, les interrogatoires, d'après ce qu'on peut comprendre en lisant entre les lignes dans le récit de Evelyn et en particulier de Pépiz, les hauts fonctionnaires, ils donnent carte blanche aux militaires, vous devez obtenir des informations. Et entre autres, on trouve un Français passablement débile qui vient de Rouen, donc il a atteint d'une maladie mentale visiblement. C'est un horloger, c'est l'affaire Hubert. C'est Hubert, donc ils arrivent à le faire avouer, ils obtiennent des aveux, il avoue qu'il a mis le feu. Il dit « j'ai mis le feu à Westminster ». Puis il dit « mais il n'a pas brûlé Westminster ». Il corrige le tir, il dit « non, j'étais à Pudding Lane, j'ai mis le feu à Pudding Lane ». Ils le pendent et ils se rendent compte après la pendaison qu'en fait il est arrivé à Londres le 3 septembre, donc après le début de l'incendie. Donc vous voyez un petit peu ce climat alarmiste, ce fantasme sur l'ennemi intérieur qui va réapparaître. Et le naturel revient aussi très rapidement au galop. On dénonce l'ennemi français, et de l'ennemi français, on n'a jamais très loin de l'ennemi catholique, papiste. Donc on désigne la communauté française de Londres, qui est fondamentalement protestante, calviniste, comme une communauté papiste, qui veut renouveler le complot des poudres. L'expression est utilisée par les Anglais dans ces témoignages. C'est assez intéressant. Les Anglais en parlent très très peu de cet aspect. Alors, pour enfoncer le clou, l'exemple de la Gazette de Londres, où on voit « divers strangers, Dutch and French were », c'est le début de l'affaire. Et on va quand même chasser du Hollandais et du Français encore pendant une dizaine de jours après la fin de l'incendie. Dans le même temps, on s'interroge aussi sur les desseins de Dieu. Et oui, il y a de quoi s'interroger quand même. Coup sur coup, deux désastres. Un désastre sanitaire, la peste, et à quoi? Quelques mois d'intervalle, on enchaîne sur l'incendie. Allons pas douter, pour la frange la plus puritaine, on ne peut voir là que la main de Dieu. Et voilà un exemple des manifestes, il y en a eu pas mal à l'époque, ça j'en ai absolument pas conscience. quand j'ai démarré ma quête. C'est le plus connu, hein, c'est celui de Thomas Vincent, qui est un vicaire, mais qui en fait est un vicaire pas vraiment anglican, qui est plutôt à tendance très 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 puritaine, et qui nous resserre les grands classiques sur la réalisation du dessein divin, qui a puni les Londoniens pour leurs péchés, leurs fautes. Je vous ai mis quelques morceaux choisis, mais qui sont vraiment assez évocateurs. Hein, la voix de Dieu s'est manifestée. Après, pour justifier le fait que Dieu fasse du mal, on insiste en disant que parfois, ben, il parle aux gens de manière terrible, les terrible things. Et puis très rapidement, il dévie sur une comparaison, une extrapolation entre l'incendie de Londres et un passage de l'Ancien Testament. C'est le livre donc d'Habacuc, que vous connaissez peut-être, mais qui est assez intéressant. C'est à la veille donc de la défaite face aux Babyloniens, l'incendie donc du temple et tout ce que vous voulez. Donc lui établit un parallèle qui est somme toute assez judicieux quand on se présente comme étant un religieux de bon aloi. Donc, la thèse religieuse va perdurer également. Cela dit, elle sera moins forte que la thèse du complot. Cela dit, le complot est en partie lié à la question religieuse, puisque vous l'avez compris, pour partie, les comploteurs sont des papistes. Et enfin, qu'en est-il de la météorologie? C'est un aspect qui n'a absolument pas été abordé. C'est le seul élément vraiment neuf. Il n'a pas été retenu spécialement par les historiens britanniques, tout simplement parce qu'ils ne sont pas portés sur la chose climatique. Alors qu'on dispose en Angleterre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, des premières séries météorologiques. Oui, première. Et là, j'ai réussi à remettre la main, grâce à un collègue du département d'histoire, sur les séries de John Locke. John Locke est un des premiers, c'est un des membres fondateurs de la Royal Society, Pépys étant le président. Et notre John Locke, qui est officiellement philosophe, c'est aussi un astronome, c'est aussi un physicien, bref, un homme complet, un homme total. Et il commence des relevés très très intéressants, jour après jour, enfin quotidien, en indiquant donc les températures en degrés Fahrenheit, la pression barométrique, l'hygrométrie, l'orientation des vents et l'état du ciel, le weather. Mais c'est drôlement pratique parce que ça permet d'avoir une idée. Beaucoup de témoins, dont Pépys, disent juste avant l'incendie, oh, toutes ces maisons de Londres, il suffit d'une allumette pour qu'elles brûlent immédiatement. Et en fait, il fait allusion à un épisode de sécheresse, un des plus sévères de l'histoire de l'Angleterre. Et lui, il confirme, pendant cette période, il couvre seulement juin jusqu'à septembre. De toute façon, je ne suis pas allé au-delà du 15 septembre. Et on a donc les températures quotidiennes qui ne sont pas extraordinaires. Ce n'est pas extrêmement chaud. En revanche, c'est extrêmement sec. En témoignent donc les niveaux d'humidité et surtout le nombre de jours de pluie. Donc ces planches ont été éditées dans cet ouvrage, hein, donc l'histoire générale de l'air, ultérieurement. Et voilà ce que ça donne, une reconstruction des sécheresses en Grande-Bretagne. Simplement pour mémoire, vous avez la sécheresse de 1666. Vous pouvez constater que c'est une des plus sévères pour une période comprise entre 1500 et 2000. Elle a duré quasiment 2 jours avec très très peu de précipitations. Donc on a un contexte météorologique certain. Peu, très peu discutable. On ne sait rien du type de thermomètre qu'il utilisait, sinon qu'il était gradué en degrés Fahrenheit, mais où était-il exposé, etc. Je suis allé à Oxford, j'ai discuté avec l'écologue, climatologue et météorologue. Ils n'avaient pas d'infos particulières, même s'ils utilisent ces séries, mais ils les recalibrent par des formules mathématiques. Donc là, j'ai utilisé les données brutes. Vous pouvez constater que les températures ne sont pas particulièrement élevées. Je les ai converties en degrés Celsius, la veille et pendant l'événement. En revanche, ce qui vraiment est très très impressionnant, c'est le très faible nombre de jours de pluie, ce sont les rectangles bleus verticaux, tout au long de la période, une période comprise entre le 24 juin et la mi-septembre. Au total, 7 mentions de pluie, je n'ai pas dit 7 journées de pluie, hein, ce sont des épisodes pluvieux dans une journée. Dernière approche, qui pourrait être aussi une des causes, mais les raisons, enfin, c'est multicausal tout cela, c'est l'approche sociologique. Le nœud du problème, c'est Pudding Lane. Qu'est-ce que Pudding Lane? Et j'ai réussi à remettre la main, mais c'est les archivistes, ils vous orientent, hein, très bien, les archivistes britanniques. Quand vous allez aux archives, quelles qu'elles soient, ils sont à votre service, ils ne vous lâchent pas tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose. Donc ils m'ont dit, mais on a des registres de comptes, des taxes fiscales. Et ils m'ont retrouvé l'extrait de la taxe fiscale perçue à Pudding Lane quelques jours avant l'incendie. C'est très très bien, vous avez la transcription à droite. Vous voyez donc que c'est le Londres des artisans. vous avez un petit peu de tout. Vous avez donc, si, des veuves, ce n'est pas des artisans, vous avez des plâtriers, vous avez des verriers, vous avez un fabricant d'œil de verre qui explique la présence du verrier, en fait, il lui fait ses boules de verre. Et vous avez le fauteur de troubles, le fameux Thomas Farinor, boulanger de son état, qui a un four, le relevé fiscal l'indique, et c'est ce même four qui va être à l'origine du désastre. Donc, traduit tout cela sous forme un petit peu quantitative, on voit très bien donc l'importance prise par ces artisans dans cette rue, dans Pudding Lane. Ensuite, les veuves. En fait, les veuves sont des veuves d'artisans. Quelques particuliers et quelques maisons vides. En fait, deux maisons vides. Hein. Les effectifs sont limités. Et puis, vous avez le détail sur ces artisans, plâtriers, verriers, comme je vous le disais. Vous avez un tonnelier, le boulanger, fabricant d'œil de verre, etc. Donc, on est dans des quartiers extrêmement laborieux. Donc, vous imaginez, ils utilisent beaucoup le feu, les fours, les fourneaux, et ainsi de suite. On comprend mieux dans ces conditions qu'ils aient pu être à l'origine d'un départ de feu, pas de la totalité du feu, bien entendu. Jusque-là, on parle souvent de la catastrophe, depuis le début du séminaire, comme une catastrophe. Au sens contemporain du terme, c'est négatif, c'est mauvais. Bien, en fait, cette catastrophe du grand feu de Londres a offert un certain nombre d'opportunités. Alors, ça peut paraître un petit peu choquant, pas très politiquement ou socialement correct. Premier exemple, médical. C'est une opportunité médicale dans le sens où l'incendie a, c'est moi qui utilise l'expression, a littéralement dératisé la ville. On a une extinction des rats dans la ville. Les médecins considèrent que ça a effectivement joué un rôle important. Deuxièmement, ce fameux rite processus d'inversion des hiérarchies sociales. Oui, Pépi, Evelyne et d'autres décrivent, vous savez, quand il y a la cohue dans les rues, en fait, les riches essaient de s'échapper. Et ils ont plus de biens que les pauvres, forcément, en proportion. Donc, ils ont besoin davantage de charrettes, les fameux carts. Et que font-ils? Ils supplient les pauvres de leur fournir. Ce sont des artisans, donc ils ont besoin, ils ont de nombreuses charrettes, etc. Et en fait, les pauvres vont profiter de l'aubaine et on voit les prix exploser. Pépise dit la location d'une charrette qui coûtait à peu près 2 shillings arrive en quelques heures à 40 livres sterling. Vous imaginez un petit peu. Donc ça, pour une inflation, c'est une véritable inflation. On appelle ça, moi j'appellerais ça de la spéculation populaire. Bref, ils leur font payer les retards de paiement ou en tout cas ces inégalités sociales. Et c'est intéressant. C'est assez anecdotique, mais c'est répété très régulièrement à propos des mouvements de foule. Deuxième chose aussi, cette catastrophe a donné un superbe coup de fouet à la presse britannique. En particulier à ce journal, la Gazette de Londres, qui a débuté une année auparavant, 1665, qui est un journal officiel, mais alors qui, profitant de l'opportunité du feu de Londres, est totalement revigoré, renouvelé. Il faut savoir que le journal a réussi à imprimer au moment où les flammes venaient lécher le bâtiment où se trouvaient les machines, a réussi à imprimer la première feuille, très rapidement, elle ne fait que mentionner. Et ensuite, ils se sont déplacés avec certaines machines, et ils ont réédité ce numéro du 3 au 10 septembre, et le contenu est absolument époustouflant. Il relate exactement ce que l'on a dans les journaux, intimes et dans les livres de raison anglais, plus périphériques. C'est-à-dire que cette presse est extrêmement bien documentée, et elle va être répercutée par la presse hollandaise, par la presse française pour partie, avec une pléthore de détails, de précisions. Vous avez des exemples ici, mais j'y reviens pas parce qu'on y a déjà fait allusion. Donc, de fait, grâce à cette médiatisation, l'événement aura un retentissement européen. J'ai mis qu'un exemple, là, c'est un exemple allemand, mais c'est intéressant parce que le témoin qui a réalisé, c'est une gravure sur bois, hein, oui, ce Matthäus Merian, est sur la rive donc sud de la Tamise, celle qui a failli brûler en passant par le pont de Londres, hein, qui était habité à l'époque et qui était bloqué in extremis par le fameux glacis. Et il vous représente, donc cette gravure a été rédigée en allemand, les inscriptions étaient diffusées dans toute la Mitteleuropa à l'époque. Enfin, rappelez-vous de la conférence de mon collègue Thomas Leroux, il vous disait que l'assurance apparaissait au XVIIIe siècle. En fait, la réassurance, il y aurait des médiévistes. Y a-t-il des médiévistes ici? Je ne crois pas. Je pense qu'il y aura un médiéviste, il me dirait, Garnier, moi j'ai des preuves tangibles de naissance d'assurance autour du XIIe, XIIIe siècle à propos de la commercialisation maritime. Bon, je pense qu'à tour de rôle, on va trouver l'origine, en fonction de notre champ d'investigation, des preuves de la naissance. Ici, on se situe en 1696, mais c'est la conséquence directe du grand feu de Londres. La volonté de se prémunir sur le plan financier en créant un système d'association des sinistrés et avec diffusion après des enseignes, des bureaux de cette assurance, la fameuse donc Fire and Life Insurance Society. Et vous avez un petit peu partout dans Londres, j'ai fait le tour de la ville après pour essayer de les retrouver, vous avez ces plaques qui localisent pour permettre aux sinistrés d'aller réclamer des dommages et ainsi de suite, qui localisent les bureaux tenus par cette fameuse compagnie d'assurance à l'époque. Enfin, mais vous connaissez cet aspect-là, c'est l'aspect ultime. Vous avez un grand monument qui commémore, je vous l'ai déjà dit, le grand incendie de Londres, et il dit oh, « la reconstruction s'est faite en 3 ans ». Il ment, il vous ment. En réalité, tout a commencé à partir de 1668 et la reconstruction a duré plus d'une trentaine d'années, quasiment. Alors, pour reconstruire, il fallait séparer le baie de Livrée ou en tout cas trouver un terrain d'entente entre les propriétaires, les locataires sur place. Donc, on a créé une cour spéciale, la Fire Court, qui a œuvré entre 1767 et 1772. Elle était censée régler ces conflits et elle décidait de qui pouvait reconstruire sur le territoire incendié. Donc il y a eu, là aussi, une prise en charge par le pouvoir, les pouvoirs publics, une tentative en tout cas. Mais elle a totalement échoué dans la résolution du problème majeur qui était celui de la propriété. Et c'est ce qui explique, quand vous regardez les ouvrages publiés par nos collègues britanniques, en fait, les architectes se sont bousculés pour proposer un nouveau Londres. Et les projets étaient tous plus mirifiques les uns que les autres, mais n'étaient pas applicables. Certes, pour une raison financière, mais aussi et surtout pour des raisons de propriété. On ne pouvait pas construire ce nouveau Londres puisqu'on n'avait pas résolu la question de la propriété. C'est assez peu connu. Ça impliquerait de travailler dans les archives notariales et dans les archives de cette Fire Court. Les collègues l'ont peu fait, les collègues britanniques. Donc ça, oui, ce serait une piste extrêmement novatrice, me semble-t-il, assez intéressante en tout cas. Et donc très rapidement, ce que j'appelle moi les folies architecturales ont été abandonnées et celui qui a remporté la partie, c'est le fameux Christopher Wren, pas rancunière des autorités, puisque c'est lui qui a mis le feu, plus ou moins, à la cathédrale Saint-Paul à l'époque. Enfin, le monarque qui intervient très très rapidement par cette déclaration en 1666 et qui décide que le nouveau Londres, quelle que soit sa forme, quel que soit le plan, devra quand même répondre à de nouvelles règles d'urbanisme non négociables. Quelles sont-elles ? Il commence, à titre préliminaire, à dénoncer les effets pernicieux, les conséquences pernicieuses, je le cite dans le texte, des bâtiments, des bâtisses, etc., en bois. Et il dit que désormais, pour reconstruire, il faudra que ce soit en brique ou en pierre. Brick or stone. Dans le cas contraire, si on déroge, qu'on construit néanmoins en bois, en torchis, etc., l'autorité se réserve le droit d'abattre, to pull down la maison. Donc vraiment une politique très volontariste, très interventionniste, qui est en rupture totale avec, je ne sais pas si on reprend John Locke, le libéralisme naissant. Là, on a un pouvoir très centralisé, puissant, qui, je me répète, mais qui court-circuite totalement les pouvoirs locaux qui ont été en dessous de tout, c'est la vérité, et qui décide de remodeler la cité. Là, j'arrive plus à lire, c'est un peu loin pour moi, c'est bien fait, j'avais mis qu'à mettre en plus gros caractère. Oui, et qui prévoit quand même toujours dans ces nouvelles règles d'urbanisme de reconstruire une ville dans tous les cas de figure, dont les rues auraient une largeur plus importante, c'est bien cela, pour éviter la dissémination, la propagation du feu. Enfin, là c'est mon péché mignon, plusieurs siècles après la catastrophe, la volonté de conserver la mémoire de ce désastre, dès l'origine pratiquement, c'est cette fameuse colonne, Monument of the Great Fire, c'est ce que disent les Britanniques, qui est un monument commémoratif très intéressant, qui a pour vocation, je cite, là je l'ai traduit, pour préserver au mieux la mémoire de ce terrible événement. C'est ce qui est écrit par Charles II. Ce qui est très intéressant, c'est de traîner autour. Les londoniens, ils ne font pas attention. Et puis les collègues qui savent ne s'y tendent pas non plus. Mais c'est assez rigolo parce que alors il y a de très beaux textes sur la résistance du peuple londonien, très beaux textes sur le rôle de la monarchie, sur le rôle de ses serviteurs, l'armée en particulier. Puis il y a la face cachée, c'est comme la face cachée de la lune, c'est le côté est. Et vous avez cette phrase, hein, « But popish frenzy, which brought such horrors, is not yet quenched. » Bon, en clair, mais la folie papiste, oui, c'est la meilleure traduction, qui a apporté une telle horreur, n'est toujours pas assouvi. Intéressant. Donc jusqu'au bout quand même, on entretient le mythe du complot catholique. Et c'est assez rigolo parce que quand après je suis allé dans des pubs, il faut aller dans les pubs, c'est important, on peut faire de l'histoire dans les pubs, on fait plein de choses dans les pubs britanniques, et quand vous discutez avec des londoniens, des rustiques, hein, des vrais, statut de catholique reste très très ambigu aujourd'hui encore dans la société britannique. Pas officiellement, hein, ça va de soi. Mais c'est un statut qui reste véritablement ambigu. C'est plus facile d'être appartenu à la communauté juive, musulmane, qu'à la communauté catholique. La communauté catholique, aujourd'hui encore, est toujours perçue comme une cinquième colonne. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, à cause de la nouvelle vague d'immigration d'Europe de l'Est, majoritairement composée de Polonais. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de se faire renoyauter. Ils n'en parlent pas, Cameron ne le dira jamais, mais même la gauche le pense, et considère que cet afflux de Polonais, c'est un afflux de catholiques. Et de fait, c'est des catholiques plutôt durs, quoi, plutôt traditionnalistes, et les Anglais le voient d'un très, 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 très mauvais œil, même si par ailleurs, les Anglais ne mettent plus les pieds à l'église anglicane, il n'y a plus personne. On voit un prêtre, quelques têtes chevelues grisonnantes, et c'est à peu près tout. C'est plutôt une race en voie de disparition. Donc, en guise de conclusion, je crois que là, l'étymologie du mot catastrophe s'applique à merveille. Catastrophé, c'est un bouleversement, pas forcément que négatif, un renversement de société. Les pauvres peuvent devenir des riches à la faveur d'une fenêtre de quelques heures dans les rues de Londres. C'est aussi un renversement social parce que les pauvres sont utilisés, entretenus, valorisés par le pouvoir central, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, parce qu'ils ont combattu l'incendie. Un bouleversement aussi, tout simplement parce que, sur le plan politique, cet incendie détruit non seulement les bâtiments, mais aussi les pouvoirs du Lord Mayor de Londres. Et enfin, le bouleversement le plus évident sur le plan paysager et visuel, c'est la construction d'une nouvelle ville, le Londres moderne, que vous connaissez. J'espère que je n'ai pas tué mes clients. Je vous remercie en tout cas.